Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Paravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Marseille sur 95.1 et qu'on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec les règles des appellations sur l'assemblage, avec un exemple Minervois, la Livinière, belle appellation. Le marketing digital appliqué au vin, l'appellation virée et classée, nous serons en Bourgogne. Et dis-le quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Pio. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Tout va bien Hélène?
Tout va parfaitement bien.
Alors, ce métier de tête de l'air, vous l'avez embrassé ou pas?
Non, c'est le steward que j'ai embrassé.
C'est steward,
on avait dit qu'on ne disait pas ça non plus.
Et puis donc, les trois stewards, Philippe Forbach, David Gobel et François Bieber. Bonjour à tous les quatre au total.
Quoi. Bonjour, prêt au décollage.
Pour commencer avec un L, hein. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve donc vous, Hélène, hein, pour nous parler d'un garçon étonnant là, qui a inventé un truc bizarre qui s'appelle vin masqué. Il est fréquentable ou pas alors?
Ben écoutez, il a l'air, en tout cas, il est venu au studio sans masque, on est plutôt contents. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous avez effectivement fondé
Julien,
un
comment
site...
vous appelez d'ailleurs?
Julien Mallard.
Julien Mallard, très bien.
Vous avez fondé un site qui s'appelle vinmasqué.com, site tout nouveau, vous l'avez lancé en novembre.
Exactement.
C'est un site qui vous propose de découvrir trois vins chez soi à l'aveugle en mini-bouteilles de 2 centilitres. Mini-bouteilles que vous appelez des vinotes.
Exactement. Alors, c'est pas forcément moi qui les appelle les vinotes, c'est le fournisseur qui, par qui je passe, qui reconditionne et qui a appelé et ses.
Vous êtes obligé de garder son nom parce que vinotes.
Non, mais je trouve que le nom est bien amené.
Ah bon, vous aimez, d'accord. Okay. Vous aimez vos vinotes ou pas trop là,
moi, ça fait que note, ça a un côté bébé, comme c'est des bébés bouteilles.
je dirais why not.
Why not, voilà. C'est bien ça.
Donc le principe, on commande chez soi donc trois vinotes de 2 centilitres, et si l'un des vins vous plaît, on peut commander les bouteilles.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Alors, ça, le concept est très sympa, mais il y en a d'autres assez approchants qui proposent par exemple des vins en tube, enfin genre mini-éprouvette. Bon, expliquez-nous en quoi votre site à vous est nouveau.
Alors, ce qui est nouveau, c'est déjà de pouvoir goûter à l'aveugle. C'est-à-dire que vous recevez les trois, le coffret de trois vinotes. Vous ne savez pas ce que c'est.
Ah, c'est trois, un coffret trois.
Alors, c'est trois petites vinotes, donc trois vins différents.
D'accord.
On commence avec du vin rouge dans un premier temps. On développera du blanc par la suite. Et l'idée, c'est que le client reçoit ça en début du mois. Il a 10 jours pour goûter et choisir son vin préféré. Derrière,
et pourquoi 10 jours?
Parce que derrière, on a besoin d'avoir un cycle et une traçabilité des vinotes.
Parce que là, les vinotes, comment vous faites? Vous mettez donc, vous prenez une vinote, vous mettez du vin dedans, vous rebouchez.
Alors, c'est pas moi qui le fais. C'est un process qui a été développé et breveté qui permet de reconditionner le vin sous atmosphère inerte et de maintenir la qualité organoleptique.
Et il vous faut combien
de,
pour une mise de vinote, par exemple, il vous faut combien de bouteilles faut en faire?
Alors, avec une bouteille de 75 centilitres, ça fait 37 vinotes, sachant qu'il y en a une qui fait office de traçabilité de qualité.
Ah, bah c'est bien ça. C'est... Et vous pouvez donc mettre des vinotes pour 10 bouteilles, 20 bouteilles. Enfin, vous n'avez pas un nombre minimum de quantité de vinotes à créer?
Non, il n'y a pas de minimum.
Donc, on reçoit donc les trois vinotes, on goûte à l'aveugle, on ne sait effectivement pas ce que c'est. Et puis, s'il y en a une qui nous plaît, on peut commander la bouteille. Mais alors, ce que j'ai vu sur le site, il me semble qu'il faut en fait s'engager avant à commander une des trois bouteilles. C'est ce qui m'a un peu troublée.
Alors, il y a deux offres différentes. Il y a une offre qui permet d'avoir juste le coffret. Donc, on goûte les trois vins et derrière, on peut racheter des bouteilles sur le site internet. Et il y a une offre qui comprend le coffret plus la bouteille. Et en plus de ça, on rajoute aussi la possibilité de partager l'expérience. Et donc, c'est deux offres duo. L'offre sans la bouteille ou l'offre avec la bouteille, on peut le partager. Et donc, avoir six vinotes de
Et si on attend 6 mois, le vin dans la vinote est toujours bon ou il y a une durée de péremption supérieure?
La durée, c'est 3 mois.
Ah, donc, d'accord.
Donc, il est assuré 3 mois de maintien
des qualités organiques. C'est important quand même, François. Vous en pensez quoi, François
Weber? Je pense que c'est particulièrement intéressant dans une logique de coffret cadeau. C'est-à-dire qu'on va offrir ça à quelqu'un et en fait, au lieu de choisir un vin, on lui offre la possibilité de choisir lui-même.
Donc, c'est sympa.
Ça, voilà, c'est assez innovant. C'est
marketing, ça redonne le choix finalement au client. Le choix parmi une sélection présélectionnée et qu'on sélectionne justement pour la qualité des vins. Mais derrière, le client n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est un vin de bonne qualité? La seule question qui va se poser, c'est est-ce que je l'aime ou je l'aime pas?
C'est ça quoi. Et il met un gaz ou pas dans la vinote là, monsieur?
Alors oui, oui, il y a un gaz qui... mais après, je ne peux pas vous expliquer vraiment le procès. Ce n'est pas moi qui le fais.
Vous en pensez quoi ? Si c'est bourré de CO2, ce n'est pas la peine de prendre une
note. Non, non. Si les conditions de dégustation sont bonnes, dans la conservation, c'est parfait. C'est sympa parce que là, il n'y a pas d'influence de l'étiquette, bonne ou mauvaise.
Exactement.
Il y a la sincérité, j'allais dire, du dégustateur.
Ouais.
La question que je me pose, c'est, je suppose qu'il y a différents niveaux de prix, finalement. Les gens savent comment... Parce que les trois bouteilles sont au même prix.
Alors, les trois bouteilles sont dans une gamme de prix similaire. On est aujourd'hui sur des bouteilles autour de 20 euros, donc entre 17,50 euros et 22,50 euros. L'idée, voilà, c'est que le client derrière ne se sente pas lésé si jamais, finalement, il se rendait compte que la bouteille était à 10 euros alors qu'il paye un coffret à 39,99 euros pour une bouteille autour de 20 euros. Voilà, il ne faut pas que le client, il faut qu'il ait la confiance. Et nous, on veut être honnête et authentique et sincère.
Enfin, des gens honnêtes dans le vin.
Ah, ben. À titre d'exemple.
Alléluia, ça y est, c'est une bonne année, là.
À titre d'exemple, les vins que vous proposiez en novembre, donc à l'aveugle, mais maintenant, on peut casser le suspense.
On peut le dire,
Alain. Les gens
alors,
qui
Pétrus, Mouton
et Margaux. Oh, eh bien, oui.
Tout ça à 20 euros la bouteille.
C'est ça. Et en millésime 1928. Non, c'était un Brouilly, un Lirac et un Malbec argentin.
Exactement. Mm-hmm.
Des choses très différentes.
Voilà, des choses très différentes. Est-ce que il y a eu un engouement particulier pour l'une des trois bouteilles ? Est-ce que tout le monde s'est rué sur la même ?
Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'aveugle, nous n'avons pas les mêmes résultats que lorsqu'on a les bouteilles devant nous.
Oui, bien sûr.
J'ai fait un test. Le Lunta Malbec argentin a été le plus choisi à l'aveugle.
Ah oui.
Et par contre, c'est le Brouilly qui a gagné haut la main lorsqu'on voyait les bouteilles, parce
c'est
que
incroyable,
c'est
un
qui parle aux personnes. Et notamment toutes les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en vin, le Brouilly, c'est le premier vin qui leur parlait.
D'accord, oui, parce que l'Irak est une appellation moins connue. Et puis l'argentin, on sait pas.
L'argentin,
Lunta, déjà ça. Avec le nom de Lunta et puis argentin, tout de suite ça.
Alors qu'à l'aveugle, c'est celui qu'on vous a le plus demandé.
Exactement.
Ah, c'est vraiment intéressant.
C'est tout à fait intéressant.
C'est impressionnant. Une vie de vérité, ça.
Oui.
Il faut donner les prix de tout ça. Donc c'est 19,90€ si on ne commande donc que les trois vinotes.
Oh, c'est bien ça.
Et ça peut monter jusqu'à 34,90€ si on commande d'emblée une bouteille en plus ou 44,90€ si on fait tout en duo.
Vous gagnez un peu de sous ou pas?
Oui, on gagne des sous. Alors, c'est pas ce qui nous fera vivre demain. Notamment, il faut qu'on trouve des
capitaux risqueurs pour vous faire vivre.
Non, mais...
c'est pas ça le principe. On laisse des sous, comme ça on vit, puis quand on n'a plus de sous, on change de capitaux risqueurs, non?
Non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que derrière, on cherche aussi d'autres moyens de pouvoir générer de la marge uniquement avec les coffrets. Donc on a bien sûr la vente des vins qui va nous rapporter de la marge, mais c'est pas uniquement sur les coffrets.
On met une petite note là, Julien. David Cobol, vous mettez combien sur ce projet-là? Vous y croyez, 7, vous y croyez pas?
7 sur 20.
7 sur 20?
Ouais.
Bon.
Oh, 7 sur 10, pardon.
Excuse-moi. On trouvait ça dur.
7 sur 10.
Il a repris le sourire.
C'était la rigueur anglaise, là.
Et vous, Philippe, 7 sur 7 ? Non ? Vous mettez combien ?
Non, oui, 7, 8 même. Ouais. Je trouve vraiment sympa.
8 sur 10, alors 8 sur 10. Et François ?
J'aime bien la dégustation.
Moi, je vais être un petit peu dur, mais parce que je pense qu'il y a encore du travail d'amélioration à faire.
5, 6 sur 10. Et vous, Hélène ?
Mais avec une suggestion. Bon, là, les cadeaux de Noël sont passés.
Oui.
Mais typiquement, très souvent, on cherche, dès qu'on a un certain âge, quel type de cadeau on peut offrir.
C'est
le genre de choses, par exemple, d'offrir une découverte sur toute l'année, c'est-à-dire sur 12 mois. Et puis, bah, finalement, votre parent, votre ami reçoit pendant 12 mois un cadeau de vous. Et c'est assez sympa.
Et on y pense tous les jours. Vous aussi, Hélène, c'est un peu comme ça.
Oui, mais si on fait ce que dit François, ça va monter singulièrement les prix, parce que du coup, on offre pour l'année. Donc, on offre un beaucoup plus gros cadeau.
Alors que
là, au moins, on peut offrir, un petit cadeau.
Merci, Hélène. Votre site, c'est quoi? C'est
20masqué.com.
Bon, super, bravo en tout cas, bon courage. Philippe Forbach, David Cobol, c'est à vous maintenant, Philippe, David plutôt.
Alors, c'est à moi.
On parle un peu de l'assemblage des Cobol.
Alors, d'ailleurs, c'est un peu un sujet pour Philippe, parce que il est au comité de l'INAO, je vais tacler un tout petit peu. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est une sorte de mantra français, ça. Alors, j'ai trouvé l'exemple récemment en faisant pour un des clubs, le club Épicure Paris que j'anime, une dégustation d'une excellente appellation, toute petite, 350 hectares, de Minervois, la Livinière. Donc, c'est une partie incrustée dans la partie nord de Minervois, appellation plus vaste. Et on a goûté 9 échantillons, tous bons auparavant, enfin, certains meilleurs que d'autres, mais intéressants. Ça m'a frappé en lisant, en préparant cette séance de dégustation, en lisant tous les textes sur l'appellation que j'avais visité il y a quelques années d'ailleurs, à quel point les règles sur les appellations diffèrent. parce que les données ne sont pas les mêmes. Mais prenons le cas de la Bourgogne. Pour le cépage, c'est très simple. Si c'est rouge, en gros, c'est Pinot Noir. Si c'est blanc, c'est Chardonnay. Il y a quelques exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions en France. Hein, nous sommes en France. Mais Ménervois-la-Lévinière, c'est particulièrement complexe. Je vais quand même vous lire les règles sur les assemblages en Ménervois-la-Lévinière. Les cépages, Syrah et Mourvèdre doivent constituer au moins 40% de l'assemblage. Les cépages Syrah, Mourvèdre et Grenache doivent constituer au moins 60% de l'assemblage. Et on peut avoir en cépage complémentaire Carignan, Cinsault, Terré, Picpoul et Aspirant. Alors, je ne sais pas si vous, il faut une calculette déjà pour faire son assemblage. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est assez extraordinaire. Et je ne vois pas pourquoi on ne laisse pas un peu plus de liberté du moment où on reste dans cette gamme de cépages, comme à Bordeaux, par exemple, où il y a 5 cépages en rouge autorisés. Et quelqu'un est libre de faire un pur Malbec, un pur petit verre d'eau, s'il l'estime capable de le vendre. Là, on établit des règles sur les proportions et voir les proportions combinées dans les assemblages, je trouve que c'est inutilement compliqué. Mais cela dit, on peut faire des monocépages, parce que quand on lit entre les lignes, trop vite, on ne comprend pas, quand on lit un peu entre les lignes, Syrah ou Mourvèdre doivent constituer au moins 40%, ça veut dire qu'on peut faire un pur Syrah et un pur Mourvèdre. D'ailleurs, j'en ai goûté un très bon, il y avait un pur Mourvèdre de Boré de Morel, qui était remarquable. Donc ça peut exister. Mais je trouve que toutes ces choses sont inutilement compliquées. Alors c'est une appellation qui date en plus de 1999. C'est une appellation récente. On ne peut pas s'appuyer sur une ancestralité, la grande tradition des combinaisons de cépages en Ménervois-la-Lévinière. Ça n'existait pas. Donc voilà. Alors je vais quand même nommer des bons vins, parce qu'il y avait un paquet de très bons vins quand même. Le plus élégant pour moi, c'est le Clos des Santailles 2013. Alors on avait différentes millésimes, donc c'est pas une sélection rigoureuse sur un seul millésime. Le domaine de la Rouviole 2015 était très bon. Boré de Morel, cuvée Maxime, je l'ai déjà cité, un pur Mourvèdre et une pure merveille d'ailleurs. Un château qui a un nom un peu curieux. Il faut pas se confondre. Château Pépusque, c'est pas Prépus, hein, c'est Prépépus.
C'est juste à côté de Condon.
Oui, c'est à côté de Condon. Et puis un vin qui était vraiment le meilleur, mais le plus concentré et aussi le plus cher. Alors tous les vins que j'ai cités, c'est autour de 20 euros, donc c'est oui, très bon. Mais Château Maris, cuvée Dynamique 2015, ça vaut quand même 58 euros, mais c'est un vin absolument magnifique.
Merci beaucoup David Kobold, merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des beaux cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Et puis ensuite, on parlera d'un sujet étonnant dans un beau pays qui s'appelle Invino Digital.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au restaurant Paravin, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et puis le Vino Quiz, Hélène.
Je vous rappelle son principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du livre de Philippe Forbrac, Tout sur le vin. Voici la question de ce week-end. Le Pic Saint-Loup est-il un vin produit au pied des Cévennes? Réponse A. Des Pyrénées, réponse B, ou des Vosges, réponse C. Pour répondre et gagner un exemplaire du livre de Philippe Forbrac, Tout sur le vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Invino sur Radio, on retrouve à présent François Vibert, fondateur et président du groupe Quanco, pour nous parler du marketing digital dans le milieu du vin. Alors, ces dynamiques, ils sont modernes ou il y a encore du boulot dans le vin?
Il y a plein de choses à dire sur le marketing dans le vin. Moi, je me suis amusé à faire un peu une analyse de tout ce qui peut se faire. Et finalement, il y a deux choses. Tout d'abord, on peut avoir un grand cocorico parce qu'effectivement, la France est en pointe dans la vente de vin en ligne, avec des ventes de vin en ligne pour l'année 2009, qui est de 2019, excusez-moi, qui devrait avoisiner les 2 milliards.
Ah, quand même, en volume d'affaires, vous voulez dire, François.
Voilà. On est quasiment au même niveau que les États-Unis, et le premier pays au monde, c'est la Chine, avec 5 milliards, mais pour le nombre, finalement, c'est très très faible. Et on est devant l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni,
ah oui,
qui est juste derrière nous. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est que finalement, les achats en ligne sont plus importants que quand on achète en direct. C'est-à-dire qu'en moyenne, le panier moyen est aux alentours de 200 euros, là où c'est quasiment la moitié quand on achète en direct.
Chez un caviste ou alors
chez un caviste. C'est-à-dire, c'est 200 euros, 10 à 12 bouteilles à peu près, alors qu'en général, c'est 100 euros et 4 à 6 bouteilles.
Il n'y a pas l'impact des frais de livraison peut-être, où les gens se disent on en met un peu plus pour payer moins?
Peut-être, ouais. Mais je pense que c'est aussi la puissance du marketing. Là, il y a aussi un facteur prix qui va jouer, parce qu'effectivement, le facteur prix est assez important sur Internet. Mais voilà, c'est assez intéressant. Et donc, ce qu'on voit, c'est que... Et le troisième point, je voulais souligner aussi, c'est qu'il y a énormément d'innovations. On a pu entendre Julien qui présentait...
20 masqués.
Mais on a énormément d'acteurs en France. Et on peut dire qu'on est la Startup Nation, alors dans plein de domaines, mais aussi dans le domaine, finalement, de l'innovation et du digital dans le vin. Et ça, on peut s'en féliciter. Alors ça, c'était le côté positif, le cocorico qu'il fallait faire, et il faut le faire parce qu'on a vraiment plein de belles boîtes, et aussi des acteurs plus traditionnels comme Nicolas qui fait de la mandoline, et ça fonctionne assez bien. Maintenant, là où il faudrait un peu améliorer les choses, et j'en appelle aux bonnes résolutions de la part de nos amis vignerons, parce que finalement, ils ont un peu oublié le levier digital. Nos amis vignerons. Alors, chez la plupart des vignerons, au mieux, on va trouver un site internet, mais qui est un site complètement
vitrine,
qui ne sert pas à grand chose et finalement qui n'est pas très très utile. Or, ce qu'on peut aussi retenir, c'est que l'évolution du mode de commercialisation va impacter les vignerons dans la façon de vendre leur vin. Et s'ils perdent la relation avec le client, quelque part, ils vont perdre leur levier principal de commercialisation, particulièrement en France.
Et oui.
Et donc, il faut qu'ils se préparent à ça. Et donc moi, je
ça,
fais appel
François,
à une bonne résolution.
On peut estimer à combien en pourcentage le nombre de sites ringards chez les vignerons, quoi. C'est un vigneron sur deux, c'est 80%, c'est...
Je dirais plutôt proche des 80-90%.
En sites pas terribles, on va dire, un point sympa, quoi.
Non, ils sont jolis, mais c'est juste des sites vitrines. Or, maintenant, le marketing digital, si on compare avec les États-Unis, n'importe quel vigneron américain va intégrer en fait un site qui va être responsive, donc accessible sur n'importe quel type de support. Ce sera dans quasiment tous les cas un site de vente en ligne aussi. Alors, très peu de vignerons permettent d'acheter leur vin en ligne.
C'est ça, quoi. Ouais.
Et après, ils n'utilisent absolument pas aussi le digital comme un outil de communication avec leurs clients.
Hélène Piau, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, alors vous demandiez un petit audit sur les sites de vignerons en France. Moi, je trouve que le principal problème, au-delà du fait qu'ils soient beaux, moches, bon, il y en a qui sont ringards, ok, c'est une chose, mais c'est surtout qu'ils ne sont pas actualisés, qu'on a des millésimes 2012, les dernières nouvelles du vignoble. Alors, on clique en disant chouette, on va savoir un peu ce qui se passe et tout, on est content.
Alors, le réveillon,
quand c'est le réveillon 2018, on est content, mais il y a des fois c'est le 2012 aussi. Enfin, franchement, c'est.
Alors, il était comment ce réveillon 2012 ?
La foire au vin de Brive en 2004, comment vous dire ? Je suis moins intéressé.
Vous en pensez quoi, toi, Julien ? Alors, vous en pensez quoi ? Vous êtes avec Vin Masqué, le fondateur de Vin Masqué, là. Vous avez quel âge ?
J'ai 27 ans.
Ouais, c'est un peu vieux. Enfin, vous êtes quand même jeune. Alors, 27 ans, dites tout. Vous êtes d'accord avec François ou pas ?
Oui, enfin. Oui et non. Alors il y a de plus en plus de vignerons qui se mettent à la page et qui ont justement des sites intéressants qui mettent en avant leur vin, leur histoire et avec la possibilité d'acheter des vins également directement depuis leur site. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de vignerons qui doivent faire l'effort et je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui les accompagnent aujourd'hui sur ce type de fonctionnement.
Donc, ça va dans le bon sens, selon vous, quoi.
Comme François. Ça, mais... je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles ils doivent travailler. C'est comme disait Hélène, effectivement le contenu, parce qu'il faut actualiser son contenu. Ça doit être un support de relation. D'ailleurs, il ne faut plus le voir comme une vitrine, mais comme un support de relation. Moi, j'ai reçu hier en fait, un email d'un vigneron qui me présentait ses vœux, mais me donnait également l'actualité du domaine, les nouveautés, les récompenses qu'ils avaient eues. Et bien, ça me fait plaisir et ça m'implique dans ma relation avec eux. Et finalement, tous les ans, je pense à les appeler pour aller acheter du vin chez eux.
Ouais. Bon, donc là, on peut réagir sur les propos de François, donc avec un côté positif et en même temps, on peut mieux faire quelque part.
Peut mieux faire. Après, le petit bémol, c'est que d'une part, vigneron, effectivement, c'est un métier qui se fait à la vigne et à la cave, plus que derrière un écran. Donc, c'est vrai que c'est. Voilà.
Parfois, il y a des petits vignons et c'est tant mieux. Quoi.
Et puis, à chaque fois que je vois un site moche ou pas à jour, je me dis, bon, allez, ça fait bosser les cavistes. ok, c'est pas un site. C'est un site vitrine, c'est pas un site marchand et tout, mais. Mais au moins, si on le veut, on va voir les cavistes. Et c'est une profession qui est tellement formidable et merveilleuse, qui est tellement une profession de lien et de transmission, que je me dis, je me console comme ça.
Je vois David qui est tout à fait d'accord avec vous. Philippe, pour moi, vous en pensez quoi ?
Ça s'est amélioré quand même, parce qu'on vient de loin.
Oui.
Ça, c'est mon premier constat. Le deuxième, c'est que le côté marchand, effectivement, il y a certains vignerons qui ne souhaitent pas du tout le faire en France, contrairement peut-être à l'esprit américain qui est de vendre... Non,
par exemple, la maison de la Tour en Bourgogne, une grande maison s'il en faut, ne vend pas de vin, ne pas court-circuiter, c'est
son réseau
de distribution. C'est un choix stratégique.
Il y a certaines exclusivités de distribution, certains réseaux qui existent, et ils ne veulent pas effectivement les perturber.
Et ce que je veux dire aussi, c'est que ces réseaux et ces circuits de distribution vont se transformer. Et donc, il faut que les vignerons s'adaptent à cette transformation. C'est-à-dire que s'ils n'anticipent pas, ils vont la subir. Et encore une fois, je ne suis pas dans la critique, mais je suis plutôt dans le fait de dire... En fait, dans le cadre d'une bonne résolution 2019, intégrer le digital dans votre métier.
Et vous avez 2-3 sites à nous conseiller que vous avez, vous, personnellement, trouvé formidables, en disant, voilà, c'est chapeau, c'est bien ce qu'ils font. Ou d'ailleurs, on pourrait faire un jour un palmarès, tiens, c'est une bonne idée, ça. Un palmarès des sites performants ou en plein avenir.
Dans les sites alors que je pourrais conseiller, là, c'est un peu une colle, mais bon, il y a tous les sites professionnels, enfin des acteurs du vin, de vente en ligne. Donc, je dirais Nicolas, Millésima,
ouais, eux sont bien équipés, ils sont up-to-date.
Ils font bien le travail et tout ça, font correctement le job. Donc, tout ça, tous ces gens-là le font bien.
Merci beaucoup, François Biaber, Ngino Sud Radio. On retrouve maintenant Philippe Forbrac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier, boulevard Haussmann à Paris, un établissement qu'il faut fréquenter pendant toute l'année 2019. C'est la première bonne résolution. on part en Bourgogne aujourd'hui, non ?
Oui, et plus précisément dans le Mâconnais. J'ai eu envie Mâconnais. De vous parler de cette petite appellation qui produit des vins blancs à partir de Chardonnay sur une géologie particulière, parce que c'est des calcaires essentiellement, avec des marnes calcaires également, et qui conviennent parfaitement bien à ce grand cépage. Connu pour produire des vins blancs, et plutôt des vins blancs secs, et dans le Mâconnais comme ailleurs, dans la Bourgogne, il est légion. Ce cépage, mais dans l'appellation Viry-Clessé, c'est de celle dont j'ai envie de parler aujourd'hui.
C'est tout petit, ça, non ?
380 hectares à peu près, c'est petit, ouais, en même temps,
il y a de quoi faire. Quoi, hein.
C'est la partie la plus orientale de du Mâconnais, donc c'est vraiment la partie la plus à l'est.
C'est 150 fois plus grand que Cérons qu'on a reçu il y a 15 jours. Hein.
Exactement, ouais, c'est minuscule.
Et 4000 fois plus grand que le vidum de Suresnes.
Ouais. C'est un vignoble qui a comme caractéristique de produire uniquement du vin blanc, uniquement à partir de Chardonnay, sur une géologie très marquée par le calcaire, et un vignoble qui est relativement d'altitude pour la région, puisqu'on est en moyenne autour de 300-400 mètres d'altitude, ce qui est déjà pas mal, et ce qui aide effectivement à la fois à la présentation des vignobles sur les coteaux, hein, puisqu'on a effectivement ces pentes et ces altitudes, et également à garder un peu une réserve de fraîcheur qui est toujours intéressante, notamment dans les vins blancs. Mais c'est pas la seule raison de faire des bons vins, de faire des vins intéressants, originaux, aux particuliers. C'est plus intéressant encore, puisqu'on y produit à la fois des vins blancs secs, mais il y a également dans l'appellation Viry-Clessé la possibilité de faire un peu de vin liquoreux.
Un liquoreux, vous dites.
Mais oui, et c'est assez rare.
Mais très liquoreux maintenant.
Très méconnu.
Puisqu'on fait des cuvées dites levroutées, botrytisées, surmûries, etc.
Levroutées, c'est quoi ça, levroutées ?
Exactement. C'est le nom que l'on donne aux raisins qui sont effectivement atteints de la pourriture noble. Et c'est le nom local, finalement, de ces raisins
vous le votez,
particuliers.
Vous le votez,
non, j'essaie d'éviter en général. Ma mère me l'interdit.
Ouais, c'est ça, quand même.
Mais de goûter ces raisins-là, par contre, on peut se baisser pour pouvoir en profiter, effectivement.
Je vous en prie, Philippe.
C'est Thévenet et Bonhomme, qui sont deux grands vignerons de la région, qui ont relancé cette tradition de ces vins liquoreux, qui vont parfaitement bien, et c'est la saison, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, avec la galette des rois.
Ah, évidemment.
On peut aller avec le Cérons, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, les grands liquoreux.
Julien, vous aimez les galettes des rois ou pas ?
Le Pacherinck de Jurançon, oui. D'ailleurs.
Fondateur de vin masqué. Et vous êtes roi ou reine, alors dites-nous.
Plutôt roi,
évidemment. La reine, elle est là, il y a une ici. Quoi.
C'est moi.
Bah oui, c'est moi. Alors, Philippe.
Donc, avec la galette des rois, c'est très original parce que ça sort un peu des sentiers battus. Et ça se conserve très bien. J'ai la chance d'avoir encore quelques bouteilles, voire de temps en temps même des demi-bouteilles, parce qu'ils en font tellement peu que c'est souvent vendu en demi-bouteilles. De 90, par exemple, actuellement, avec ce côté. Alors, il y a souvent, d'ailleurs, même dans les Viry-Clessé secs, plutôt classiques, des arômes d'abricot, de citronnelle ou extrêmement fleuris. Et finalement, avec le temps, ce côté abricot se confise un peu, le côté miel apparaît. On a davantage des notes un peu de fruits secs aussi qui sont marquées. Et ça donne des vins qui ont une ampleur incroyable. Et au-delà de la conservation, qui est franchement facile sur plusieurs dizaines d'années.
Ah oui, ça pour les liquoreux, vous dites, pour les moelleux.
Oui, pour les moelleux.
Pour les moelleux.
Pour les secs, effectivement, ça peut être sympa de les goûter. En général, on le voit assez vite. Et ce qui les caractérise aussi par rapport aux autres vins du Mâconnais, c'est leur ampleur. On a souvent, sur Viry-Clessé, une densité, une suavité, un enthousiasme presque de goût qui est tout à fait intéressant.
Est-ce qu'il y a une grosse différence de prix entre les liquoreux, les secs, les...
Alors, entre les Mâcon classiques et les Viry-Clessé, il y a déjà un delta de prix d'environ 20%. Pour les liquoreux, oui, automatiquement, la production est confidentielle.
Du coup,
la concentration...
Moyen...
est à peu près le double d'une
bouteille. Ah, carrément encore. Pour terminer, deux, trois vignerons sympas à mentionner.
Thévenet Bonhomme, j'en avais parlé tout à l'heure. Jean Laurent, qui fait des vins magnifiques. Pierre Gondard. Rich Kerk, qui est un Belge installé dans ce coin-là et qui fait les beaux jours de l'appellation. Et puis les caves coopératives du coin qui fonctionnent franchement très bien. La cave de Clessé, par exemple, ou la cave de Viré, sont de très bons pourvoyeurs de belles choses.
Comment ça vaut une bonne bouteille, vous dites?
Le Mâcon classique, c'est toujours autour d'une dizaine d'euros. Le Viré Clessé, c'est plutôt entre 10 et 15.
D'accord.
Et les vins dits botrytisés ou liquoreux, c'est plutôt autour d'une trentaine, voire une quarantaine d'euros.
Bon, ça reste quand même accessible. Et pour la Bourgogne, en tout cas, c'est un bon rapport qualité-prix. Ah,
c'est original.
Ça coûte cher, le Vrouté.
Le Vrouté, merci beaucoup. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou invinoradio.fm et sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Encore tous nos voeux pour ce millésime 2019. On vous souhaite le meilleur, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.